Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Avant tout, Eid Moubarak Saïd à toutes et à tous pour ceux qui célèbrent la fin du Ramadan. En cette fin de semaine, dans Coémergence, nous parlons de cybersécurité dans le continent. Quelles solutions pour sécuriser la transformation numérique en Afrique? Notre invité répondra à cette question. Il s'agit de Franck Kié, il est le fondateur et commissaire général du Cyber Africa Forum. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et dans notre destination éco, nous serons en Mauritanie pour faire le point sur l'évolution de l'économie mauritanienne après le Covid. Quels sont les chantiers de développement en cours, les secteurs porteurs? Vous aurez les détails en fin d'émission. Quels sont les principaux sujets de coémergence? Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Casablanca accueille ce jeudi 27 avril l'African Unicorns. Il s'agit du premier événement de ce genre destiné à identifier les futures licornes africaines. Alors, détrompez-vous, quand on parle de licornes ici, il ne s'agit pas de mythologie ni d'animaux, mais plutôt de start-up. Quand on parle de licorne dans le domaine des start-up, c'est donc une start-up qui est donc capable de mobiliser ou dont la valeur atteint le milliard de dollars. Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment en Afrique et comment donc se développent ces start-up? C'est l'objectif de cet événement dont nous allons parler avec son fondateur et organisateur. Il s'agit de Mehdi El Hadj. Bonjour à vous, Mehdi El Hadj.
Bonjour.
Alors, parlez-nous justement de cet événement qui se tient donc dans la capitale économique marocaine, l'African Unicorns.
Tout à fait, mais je voudrais juste préciser, puisque vous l'avez abordé dès le départ, qu'est-ce qu'une licorne? En fait, une licorne se définit à travers deux critères. Il y a l'innovation de rupture et il y a en fait l'existence même de la start-up qui doit avoir moins de 10 ans. Et après, il y a deux types de licornes. Vous en avez parlé d'un qui est en effet la valorisation financière d'un milliard. Et il y a un deuxième critère qui offre la possibilité d'être aussi une licorne, qu'on appelle des licornes à impact. Et ce sont en fait des startups qui permettent de faire 50 millions de coûts évités pour la société. Là, je parle de la société civile. Donc, pour vous parler précisément en fait de cette initiative, qui est faite en partenariat avec Boston Consulting Group et plus particulièrement BCGX, qui est en fait leur entité dédiée à toute la partie tech. L'ambition de cet événement, c'est de sourcer les futures licornes, c'est-à-dire des startups qui ont la possibilité, en effet, de répondre à des deux critères, c'est-à-dire soit d'être valorisé à un milliard, soit en effet d'être une licorne à impact.
Alors, est-ce que, justement, Mehdi, est-ce que vous, sur la base de vos observations, vous avez eu à identifier de nombreuses licornes en Afrique?
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, il y en a déjà 9 des licornes, hein, donc on n'est pas en train de se projeter dans, j'ai envie de dire, quelque chose d'idéaliste. L'Afrique a déjà prouvé qu'elle était capable de créer des champions sur la tech. Et là-dessus, c'est vrai que la partie Afrique anglophone a pris beaucoup d'avance, hein, puisque dans le secteur, on considère qu'il y a un Big Four avec le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Kenya. Donc ça, c'est les 4 pays, j'ai envie de dire, qui sont aujourd'hui les moteurs de cette dynamique. Mais on commence à sentir dans d'autres pays une volonté de rattraper ce retard, et notamment au Maroc, où il y a une volonté, j'ai envie de dire, à travers l'UM6P ou la CDG qui a créé le fonds 212 Founders, d'accompagner, j'ai envie de dire, le développement des startups locales pour devenir les champions de demain.
Alors, justement, en parlant de ces champions de demain, pensez-vous qu'aujourd'hui, le terrain est suffisamment propice pour l'émergence, l'éclosion de licornes, de start-up africaines qu'on peut appeler des licornes?
Oui, tout à fait, puisque le marché africain, comment dire, génère énormément de talents. Donc, les talents, on les a. Les investissements aujourd'hui sont de plus en plus importants pour les accompagner, parce que devenir une licorne, ça nécessite énormément d'investissements financiers. Et aujourd'hui, je l'ai signalé à travers, il y a beaucoup de VC, de venture capital qui accompagne le développement de toutes ces startups. Donc j'ai envie de dire, l'écosystème aujourd'hui va permettre à des licornes encore d'éclore en Afrique. Alors après, on parle en période de récession, hein, on va pas se mentir. On est aujourd'hui dans une économie qui est un peu compliquée, mais les observations qu'on a pu faire à travers cette première édition montrent que l'accompagnement est toujours là et qu'il y a en effet beaucoup de startups qui ont la possibilité de devenir des futures licornes.
Alors, une dernière question, Mehdi Elhadj. Je rappelle que donc vous êtes le fondateur et organisateur de l'African Unicorns, un événement qui se tient ce 27 avril à Casablanca. Si vous aviez à comparer, alors peut-être que je suis très idéaliste, si vous avez à comparer ce qui fait la force des licornes ailleurs par rapport à l'Afrique, quelle serait cette différence-là?
Alors, j'ai envie de dire, la force des licornes africaines, c'est qu'aujourd'hui, elles répondent à des problématiques africaines. Donc déjà, c'est une force, puisque si on compare, et c'est le cas dans les pays occidentaux, je veux dire, quand on regarde les startups suédoises ou les startups allemandes ou les startups françaises, quand elles deviennent des licornes, au départ, elles répondent à une problématique nationale, voire continentale. Il n'y a que dans la Silicon Valley où il y a cette ambition tout de suite de devenir un champion mondial. Donc, j'ai envie de dire, la force des startups africaines, c'est que déjà, elles répondent à des vraies problématiques que les Africains rencontrent. Et c'est en ça, je veux dire, c'est un continent qui est large, un continent où il y a énormément d'habitants, donc énormément de possibilités de développement.
Donc, des possibilités de développement qui seront discutées ce 27 avril à Casablanca. Merci à vous.
Tout à fait.
Mehdi Elhadj, je rappelle que vous êtes le fondateur et organisateur donc, de l'African Unicorns prévu ce 27 avril. Donc, encore une fois, je le rappelle, dans la capitale économique marocaine. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Zoom Express.
Direction le Sénégal, où de nouvelles négociations seront bientôt lancés avec le Fonds monétaire international, le FMI. Objectif, obtenir de nouveaux financements et ce, à moins d'un an d'une présidentielle très attendue. Suivons cette correspondance depuis Dakar de Régis Moukeila. Dans son reportage, vous entendrez le chef de la mission du FMI au Sénégal, Gemayel Edouard.
Après le programme lancé en 2022 par le Fonds monétaire international et qui a permis à l'organisation de faire un diagnostic très large de l'économie sénégalaise, c'est une nouvelle étape de l'assistance fournie par le FMI qui sera mise en œuvre pour les trois prochaines années.
Nous n'avons pas entamé les discussions formelles pour ce nouveau programme. Ces discussions formelles vont commencer lors, à la marge des assemblées du printemps à Washington à la mi-avril et vont continuer vers la fin avril quand nous retournons ici. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons réfléchi un peu à voix haute avec les autorités, un peu comment on voit les choses. Et aussi, on a échangé des idées, parce qu'eux aussi, ils sont en train de préparer leur propre programme que nous souhaitons soutenir dans le contexte du financement que le FMI va pouvoir donner.
2022 aura été une année difficile pour le Sénégal dans différents secteurs d'activité. Pour l'année en cours, le FMI anticipe une croissance à 5% et reste positif quant aux prévisions à moyen terme.
les perspectives à moyen terme restent favorables et devraient bénéficier à la fois du démarrage de la production pétrolière et de gaz à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, et la mise en œuvre de réformes structurelles visant à surmonter les principaux obstacles au développement du secteur privé dans le cadre du phase 3 du plan Sénégal émergent.
L'organisation internationale relève par ailleurs que la dette publique du Sénégal atteint désormais les 75%, ce malgré une baisse des dépenses d'investissement et les comptes courants.
C'est une dette soutenable, la dette du Sénégal. Elle est à risque modéré si on fait une analyse de la viabilité de la dette, ce qui est bien. Comme vous savez, il y a les risques au niveau, quand on fait une analyse de la viabilité de la dette, c'est à risque bas, modéré, élevé ou non soutenable. Donc on est vraiment dans la bonne catégorie, le Sénégal est vraiment dans la bonne catégorie, c'est un risque modéré. Mais comme monsieur l'a dit, la marge de manœuvre, elle a été épuisée à cause des déficits les trois dernières années. Et donc c'est de là l'importance d'une consolidation graduelle sur les prochaines années. Ceci à travers un renforcement des recettes internes.
Rappelons que le Sénégal a déjà obtenu un programme d'aide d'un montant total de 776 millions de dollars et dont le premier décaissement a été réalisé en juin dernier.
Coémergence, l'invité.
Il s'agit de Franck Kié, il est le fondateur et commissaire général du Cyber Africa Forum, un événement important qui se tient à Abidjan ces 24 et 25 avril cette année. Le thème retenu porte sur les solutions pour sécuriser la transformation numérique en Afrique. Franck Kié est avec nous depuis Abidjan. Bonjour à vous Franck Kié et bienvenue dans Coémergence.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, c'est un événement important donc qui se tient début semaine prochaine à Abidjan. Parlez-nous de cette édition 2023 de l'Africa ou bien du Cyber Africa Forum.
Alors, cette édition 2023 du Cyber Africa Forum s'annonce d'ores et déjà exceptionnelle. Nous avons la chance et l'opportunité d'être accompagnés, d'avoir le haut parrainage du ministère de l'économie numérique de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, son excellence, Monsieur le Premier ministre, a également confirmé sa présence. Et nous attendons plusieurs ministres de l'économie numérique aussi africains. Nous avons aussi, pour cette nouvelle édition, travaillé sur plusieurs initiatives dédiées aux hauts dirigeants, aux femmes et aux talents. Et enfin, nous prévoyons un espace d'exposition encore plus grand, avec plus d'une cinquantaine de partenaires qui nous accompagnent cette année. Et plusieurs sessions, ateliers, panels, masterclass et plénières qui couvriront tous les sujets d'actualité en matière de cybersécurité, de transformation digitale et de sécurité numérique.
Mmh. Alors, cette année, il est question de parler donc de comment sécuriser les solutions de la transformation numérique en Afrique. Qu'entendez-vous par là?
Aujourd'hui, avec l'accélération de la digitalisation de nos modes de vie, de nos modes de travailler, et même de nos économies, nous sommes de plus en plus sujets et nous sommes de plus en plus exposés aux outils numériques. Naturellement, cela représente aussi potentiellement une faille, des vulnérabilités et des risques pour nous, pour nos entreprises et pour notre quotidien. Il apparaît donc important de pouvoir sécuriser cette transformation digitale sans quoi nous faisons face à une potentielle catastrophe en termes de protection des données, en termes de cybercriminalité et même en termes aussi, j'ai envie de dire, d'exposition qu'on peut avoir face à des nouvelles menaces plus idéologiques.
Alors, cela dit, est-ce qu'il y a aujourd'hui des acteurs africains pour contribuer à la cybersécurité en Afrique?
Bien sûr, il y en a, au premier rang desquels les États eux-mêmes, qui aujourd'hui sont en première ligne. Plusieurs pays africains ont saisi depuis plusieurs années l'importance d'investir et de se positionner comme des leaders dans le secteur. Je pense d'abord à la Côte d'Ivoire et à plusieurs autres pays qui nous rejoindront d'ailleurs cette année. Mais au-delà de ça, notre fierté au Cyber Africa Forum, c'est d'avoir plus d'une dizaine d'entreprises africaines, acteurs, leaders basés sur le continent dans le domaine de la cybersécurité qui viendront pour proposer et présenter leurs solutions.
Alors, cela dit, pensez-vous que les solutions présentées par les acteurs africains sont à la hauteur des défis en termes de cybersécurité sur le continent?
Oui, je le pense. Je le pense dans la mesure où aujourd'hui nous avons la chance d'avoir aussi des talents locaux qui sont basés sur le continent, mais aussi et surtout pour ces acteurs-là d'avoir l'opportunité de connaître le marché, de connaître les besoins et de connaître les spécificités aussi de leurs clients pour pouvoir proposer des solutions qui s'adaptent au mieux à eux.
Un événement comme donc le Cyber Africa Forum, en quoi peut-il contribuer à l'émergence ou plutôt à la sensibilisation sur la cybersécurité en Afrique?
Il contribue de la façon suivante. Aujourd'hui, nous sommes une plateforme qui réunit plusieurs décideurs importants du secteur public et du secteur privé. C'est donc le lieu pour nous de faire des annonces, de faire des recommandations et surtout de pouvoir prendre des mesures et des actions concrètes pour éveiller encore plus sur le risque cyber auquel nous faisons tous face.
Alors, une dernière question, Franck. Est-ce que cet événement donne aussi de l'importance à la formation des futurs talents africains dans le domaine? Parce que quand même, on parle de pénurie de talents ou d'absence même de talents en termes de cybersécurité à travers le continent.
Oui, complètement. À travers deux initiatives principales, nous faisons et souhaitons faire la promotion des talents. Je pense d'abord à notre Hacking Challenge. Cette année, nous avons reçu encore un très grand engouement avec plus d'une centaine d'inscriptions et de participants pour y participer et afin de détecter les futurs talents de demain qui seront accompagnés dans le domaine. Et puis, nous avons aussi un prix de la Fondation Génération Numérique qui récompense la start-up qui aura le projet le plus innovant en matière de cybersécurité et qui sera également accompagné.
Merci à vous, Franck Kié. Je rappelle que vous êtes le fondateur et l'initiateur et le commissaire donc général du Cyber Africa Forum, un important événement qui se tient à Abidjan. Donc, c'est 24 et 25 avril. Donc, cette année, je rappelle que le thème retenu porte sur les solutions pour sécuriser la transformation numérique en Afrique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Merci.
Merci.
Destination Echo.
Nous empruntons la route qui mène directement à la frontière pour entrer en Mauritanie. Comment se porte l'économie mauritanienne? Faisons le point avec Jedna Deida. Jedna Deida est journaliste mauritanien et directeur de publication du site d'information Moriweb. Il nous parle depuis Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.
La situation économique actuelle en Mauritanie est inespérée. Pourquoi inespérée? Tout simplement parce que, sans leur jeter des fleurs, les nouvelles autorités politiques issues de la dernière présidentielle ont hérité d'un pays dont l'économie était déjà en ruine et endettée jusqu'au cou. Ajoutez-y l'impact de la pandémie, la défiance sur la scène politique sur la scène nationale et les soubresauts à l'échelle du Sahel, et vous aviez tous les ingrédients des menaces sérieuses de stabilité. Mais grâce à Dieu, à la volonté politique des nouvelles autorités, au soutien des partenaires au développement, mais aussi au stoïcisme des Mauritaniens, l'espoir est désormais permis. Il est permis avec une reprise, même si c'est encore en dents de scie, du secteur productif et partant des projections de croissance économique positives et surtout distributives. Espérons donc que la tendance se poursuive de manière encore soutenue pour les prochains exercices avec la consolidation et un développement équitable et partagé entre tous les Mauritaniens, Inch'Allah. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Si l'économie mauritanienne se porte mieux aujourd'hui, c'est surtout grâce à la résilience des secteurs miniers. En effet, c'est grâce à la bonne tenue de ces industries extractives que le pays a pu amortir le choc, ce choc mondial, ce choc sanitaire mondial. La hausse de production et des prix dans les secteurs miniers, à l'échelle internationale évidemment, comme l'or et le fer, dont le pays est producteur, ont en effet permis d'amortir la pression sur l'économie et pallier même à la mauvaise production du secteur des pêches ces dernières années.
L'économie mauritanienne espère redémarrer en misant surtout sur certains secteurs stratégiques. Des secteurs que nous présente Jedna Deida, le directeur de publication du site d'information Moriweb.
S'agissant des secteurs attractifs, l'économie mauritanienne a beaucoup d'atouts, dont notamment sa diversification. Tout le monde le sait. Outre donc les promesses du secteur minier, avec d'ailleurs une nouvelle stratégie qui pointe à l'horizon pour en accroître la contribution et pour en tirer les meilleurs dividendes localisés. L'économie mauritanienne est vraiment aujourd'hui extravertie. Le secteur minier, dans cette dynamique, a boosté les plus importants investissements directs étrangers dans le pays. Mais il y a également les secteurs des gaz, prometteurs aussi, dont nous partagerons d'ailleurs les avantages avec nos frères sénégalais. C'est le projet Grand Orté Ahmeyim, mais aussi la Mauritanie, les études en Mauritanie ont révélé d'importants gisements gaziers propres au pays. Il y a aussi, même s'il a connu quelques ratés, ces deux dernières années, le secteur de pêche et les possibilités de transformation de ces produits qu'il offre et qui restent une aubaine pour notre économie. À ces secteurs, bien sûr, attractifs, il faut aussi parler de l'environnement en général et de la bonne gouvernance que le pays veut imprimer à ses relations économiques et commerciales. Tout évidemment n'est pas rose, mais le pays, disons-le, revient de loin. Et donc l'espoir, je le répète encore, l'espoir est permis de voir le pays engranger beaucoup d'avantages, de la bonne gestion intelligible et intelligente de ces ressources naturelles.
Merci à vous, Jedna Deïda. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du site d'information mauritanien Mouriweb. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.